bonsoir et bon début de semaine à tous. La Commission électorale nationale indépendante, CENI en sigle, a officiellement clôturé hier dimanche 8 octobre l'opération des dépôts des candidatures à l'élection présidentielle de décembre 2023 jusqu'à la fermeture du bureau de réception et de traitement des candidatures à 19h. 24 dossiers ont été effectivement réceptionnés. Une seule femme figure sur la liste des candidats. Si pour la majorité de ces candidats, la lutte consiste à rompre avec le système de prédation qui, selon eux, gangrène le pays. Il n'en est pas question pour l'actuel président de la République, qui est aussi candidat. Ce dernier dit vouloir poursuivre son action, celle de développer le pays. Le candidat le plus âgé a 77 ans et le plus jeune, 35 ans. Quelle analyse faire de toutes ces candidatures à l'élection du 20 décembre prochain ? Participe au débat Christian Moléka, analyste et coordonnateur de la dynamique des politologues de la RDC. Christian Moléka, bonsoir.
Bonsoir.
Itiel Batoumike, chercheur à Ebouteli, Institut congolais sur la politique, la gouvernance et la violence. Itiel Batoumike, bonsoir.
Bonsoir, madame.
Et le professeur Bob Kabamba, professeur à l'Université de Liège en Belgique, il est politologue. Bonsoir, professeur.
Bonsoir madame, bonsoir aux auditeurs de Radio Capi.
À Kinshasa, vous nous suivez sur la 103.5. Et si vous êtes à l'étranger, merci de nous rejoindre sur www.radiookapi.net, sur Canal Plus, Channel 572, sur DSTV, Canal 867. Vous avez aussi la possibilité de nous suivre en live sur la page Facebook et la chaîne YouTube de Radio Okapi. Bienvenue à tous dans votre magazine.
Vous pouvez continuer à envoyer vos réactions à tech@radiookapi.net.
Je l'ai dit dans le sommaire, clôture officielle dimanche 8 octobre par la CENI de l'opération des dépôts des candidatures à l'élection présidentielle de décembre 2023. Jusqu'à la fermeture du bureau des réceptions et traitement des candidatures, 24 dossiers ont été effectivement réceptionnés par la centrale électorale. Grâce à Mzati nous fait le point de toutes ces candidatures.
Parmi ces candidats dans la course à la magistrature suprême, il y a deux anciens premiers ministres. Il s'agit de Matata Ponyo et Adolphe Muzito. Il y a également trois anciens gouverneurs des provinces, à savoir Tony Bulamba et Jean-Claude Bayindi, tous de l'Équateur, ainsi que Moïse Katumbi du Katanga. Tous ces candidats cités tentent pour la première fois de diriger le pays, hormis Muzito dont les dossiers avaient été écartés en 2018. L'unique femme sur la liste est Marie-Josée Ifoku qui était encore candidate en 2018. D'autres qui retentent leur chance dans la compétition sont notamment Noël Tchani, Seth Kikuni, Rajabo Tebabo Suburabo, Théodore Ngoy et Martin Fayoulou. Quant aux autres nouvelles figures dans cette joute présidentielle, nous avons les docteurs Denis Mukwege, Deli Sesanga, Frank Diongo, Constant Mutamba, Justin Moudekereza, Georges Boussefalaï, ancien directeur du cabinet de feu, président Laura Désiré Kabila, Rex Kazadi, pasteur Abraham Galassi. Il y a également l'homme d'affaires et acteur politique Nkemali Lobokonziloli, l'activiste Floribert Anzuluni, le footballeur Patrice Mwamba et l'entrepreneur André Massalou. Enfin, il y a le président sortant Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, candidat à sa propre succession. Notons que le candidat le plus âgé est Georges Boussé, 77 ans, et le plus jeune, c'est Constant Mutamba, âgé de 35 ans.
Merci, grâce à Mzati, pour ce condensé. Christian Moléka, je rappelle que vous êtes analyste et coordonnateur de la dynamique des politologues de la RDC. 24 candidatures réceptionnées sont encore provisoires, hein, parce qu'on attend la publication de la liste par la CENI. Ces chiffres sont supérieurs, hein, au nombre de candidats qu'on a eu en 2018, par exemple. Qu'est-ce qui pourrait expliquer cet engouement vers la magistrature suprême?
Légèrement supérieur, parce qu'en 2018, nous avions 21 candidats, donc on n'est pas très loin du casting. Ce qu'il faut peut-être ajouter, c'est qu'en 2018, il y a des candidats qui ont été exclus, notamment Katumbi, Jean-Pierre Bemba et Muzito. Et donc, s'ils avaient rejoint la course, on serait pratiquement à 24 comme aujourd'hui. Et donc, c'est un nombre assez compréhensible parce que nous avons déjà habituellement une opposition qui est plurielle et qui va certainement s'aligner avec plusieurs têtes. Et dès que vous avez une opposition qui est plurielle, donc vous avez un grand nombre de candidats qui viennent de l'opposition. Ensuite, vous avez la particularité de ce scrutin, la société civile qui a mené un peu plus de candidats que d'habitude. Vous avez beaucoup de la société civile, Floribert Anzoloni et également Christophe Ngoï. Puis vous prenez les habituels, à savoir Fayoulou, Katumbi, le président sortant. Donc vous aboutissez à ce nombre de 24 dans un scrutin à un seul tour. Ça pose des questions en termes de dispersion de voix. Mais bon, nous sommes habitués au Congo à avoir des hommes politiques très ambitieux et parfois des ambitions qui ne correspondent pas parfois aux enjeux que l'on veut prétendre.
Alors en parlant de l'opposition, on retrouve plusieurs opposants qui sont candidats à l'élection du 20 décembre prochain. Pensez-vous que avant le début de la campagne électorale, cette opposition pourrait se mettre d'accord pour présenter un candidat commun?
C'est une possibilité. On a vu dans un passé récent l'opposition tenter de se rapprocher et produire un communiqué conjoint, notamment Katumbi, Fayoulou, Delice Sanga et Mata Ponyo, qui ont tenté à Lubumbashi de produire une position commune sur le processus. Est-ce qu'ils seront à même de dépasser le stade d'une position commune sur le processus et aboutir à une candidature commune? C'est un défi énorme parce qu'au Congo, depuis 2006, l'opposition s'est toujours caractérisée par sa dispersion. Je rappelle qu'en 2006, vous aviez Tshisekedi qui s'était retiré, Bemba qui est allé. En 2011, on a eu le fameux débat sur la candidature commune, la candidature unique entre Kamere, Kengo et Tshisekedi. En 2018, nous avons eu Genève puis Nairobi. Donc, de manière assez systématique, l'opposition chez nous est toujours partie en ordre dispersé. Maintenant, on verra s'ils auront la rationalité de dépasser leurs égos et de présenter un ticket commun.
Alors, on a aussi une femme parmi les candidats, la seule, l'unique, je dirais même, qui s'était présentée déjà en 2018. Elle revient encore une fois en 2023, Madame Ifoko. Est-ce que on peut dire que les femmes ne sont pas très intéressées à briguer la magistrature suprême? Ou elles ne sont pas encore prêtes?
Intéressées, je ne pense pas. Parce que déjà, pour briguer la magistrature suprême, il faut être à la tête d'un parti politique. Or, si vous regardez, nous avons 900 partis politiques, combien de femmes sont à la tête des formations politiques?
Donc nous devons pas nécessairement, on a des indépendants.
Oui, mais indépendance, dans un pays comme le Congo, c'est compliqué parce qu'il faut un appareil qui vous accompagne. Le pays, il est grand, c'est 35 villes, 745 territoires. Si vous prenez les ETD, vous êtes à plus de 1400 ETD. Donc il vous faut un appareil qui vous accompagne dans votre ambition. Et donc c'est toujours mieux d'être déjà à la tête d'un appareil politique, un parti politique ou un regroupement, qui vous porte à ce niveau-là. Et donc très peu de femmes sont à ce niveau. Ensuite, il y a le fait que pour conduire de tels scrutins, il faut réunir suffisamment de ressources. Le pays, il est grand, et très peu de femmes ont à la fois les ambitions et les moyens des ambitions pour prétendre à ce genre de compétition.
Plus les moyens qui manquent aux femmes.
Plus les moyens, effectivement.
Alors, Itiel Batoumi, qui est chercheur à Ebouteli, Institut congolais sur la politique, la gouvernance et la violence, qu'est-ce que vous pouvez dire par rapport à ces 24 candidatures réceptionnées par la CENI pour la présidentielle de décembre 2023?
Disons que ce qu'il faut dire premièrement, c'est que la réception des candidatures à la présidentielle est un signe que la tenue des élections le 20 décembre 2023 est presque irréversible, puisqu'on a aujourd'hui un fichier électoral, on a les compétiteurs à cette élection, et donc on peut espérer que, en dehors des contraintes sécuritaires, financières et peut-être logistiques, il y a lieu de croire effectivement que ces élections auront lieu.
Voilà.
Alors la deuxième analyse à faire de cette candidature, de cette opération, c'est que c'est la première fois depuis que la CENI a commencé à enrôler les électeurs, qu'elle n'a pas prolongé cette opération comme elle l'a fait pour l'enrôlement des électeurs ou pour la réception des candidatures des députés provinciaux, des conseils municipaux et des députés nationaux. D'ailleurs, ça permet aujourd'hui à la CENI de raccourcir les délais de publication de la liste provisoire de ces candidats-là. Alors, l'autre analyse à faire, c'est la question de la représentativité des femmes qu'évoquait Christian ici tout à l'heure. Ce que, elle est très marginale. Une seule femme sur 23, ça reste très marginal. Et vous avez vu qu'il y a des femmes qui ont été, dont les dossiers n'ont pas été retenus par la CENI, puisqu'elles avaient du mal à réunir la caution qui est exigée. Elle est certes, avec la dévaluation de la monnaie réduite aujourd'hui, elle était de 100 000 en 2018, elle est aujourd'hui à près de 65 000 dollars, mais ça reste énorme. Et donc j'estime à ce niveau-là que la réforme électorale qui a eu en 2022, qui a permis d'exempter les listes de partis politiques du paiement de la caution lorsqu'elles alignaient la moitié des femmes, elle devrait également être, cette disposition-là devrait s'étendre pour les femmes qui postulent à la présidentielle, ce qui pourrait permettre à ces femmes-là prochainement de postuler en masse. Parce qu'on a vu qu'elles ont l'ambition, mais elles n'ont pas de moyens au regard de ces processus. L'autre analyse à faire, c'est peut-être au niveau de l'inclusion du processus électoral. On a parlé tout à l'heure de 21 candidatures pour 2018, il y a 3 qui s'ajoutent. Ça signifie en même temps que les opposants qui critiquaient le processus électoral et qui continuaient à le faire d'ailleurs, ils y vont quand même. Ça, c'est inclusif parce que là, à part les camps de Kabila, on a tous les opposants, toute la société civile dans la course. Et c'est,
la CENI pourrait se frotter les mains.
Elle peut en tout cas s'en féliciter. Je crois que là, ça montre en fait quelque part une certaine incohérence dans les chefs de l'opposition, surtout lorsqu'on sait que Martin Fayoulou a d'abord décidé de ne pas partir dans cette course et puis il est revenu après avoir interdit à ses partisans de candidater pour les autres niveaux. Et donc ça permet aujourd'hui de dire qu'il y a une certaine incohérence au niveau de l'opposition et on espère que cette incohérence peut se résoudre.
Pas toute l'opposition.
Parce que dans la mesure où l'opposition critique les fichiers électoraux, l'opposition dit qu'il n'y a pas de transparence, mais il y va quand même. C'est un peu comme si elle y allait pour accompagner une messe qui est déjà dite. C'est là, en fait, l'incohérence, je pense. Mais l'autre question, c'est la dispersion de l'opposition. On voit que l'opposition, elle est dispersée. Et est-ce qu'on pourrait rééditer l'exploit de Genève? Je ne pense pas. Parce que on entend des discours du genre on peut y aller de manière dispersée, mais de toutes les façons, le peuple a rendez-vous avec un homme pour changer les choses. Mais n'oubliez pas que ces élections de 2023 ressemblent à celles de 2011. Nous sommes au premier mandat du chef de l'État en fonction. C'est difficile parfois, lorsqu'on ne se réunit pas, de pouvoir espérer l'exploit de 2018. Parce que là, le peuple peut-être était déjà fatigué du régime passé, mais ce n'est pas actuellement le cas avec le régime Tshisekedi qui jouit encore d'une certaine popularité, je peux dire, dans certains milliers au regard des actions qu'il réalise. Et donc, il faut pas.
Vous estimez que cette dispersion des voix serait à l'avantage de l'actuel chef de l'État?
Je pense, parce que dans la mesure où l'expérience de 2011 nous renseigne que la théorie, la fameuse théorie d'encerclement qui était développée par Vital Kamerhe à l'époque en disant que lui prendrait les voies de l'Est, Kengo les voies du Nord à l'Équateur et que Tshisekedi prendrait les voies au niveau du Kassai, a démontré ses limites. Et aujourd'hui, l'opposition a tout intérêt à se mettre ensemble pour espérer l'emporter, d'autant plus qu'on a vu d'ailleurs que l'autre défi de ce processus électoral, c'est la mobilisation citoyenne. Les gens sont démotivés parce qu'ils ne font pas confiance dans la manière dont le processus électoral est conduit. Et beaucoup de gens, lorsque vous leur posez la question, ils vous disent « je n'irai pas voter ». Et donc, l'opposition devrait...
Le taux de participation risque d'être faible.
Justement, on l'a démontré dans un des sondages que nous avons publié au début de cette année, que ces élections risquaient d'avoir les taux les plus records d'abstention. Et donc l'enjeu pour l'opposition, c'est aussi de mobiliser ses partisans, parce qu'on a vu que ceux qui veulent voter Tshisekedi sont prêts à aller voter, alors que dans les fiefs de l'opposition, ce n'est pas toujours le cas. Et donc il y a cet enjeu-là de se réunir et démobiliser davantage.
Professeur Bob Kabamba, professeur à l'Université de Liège en Belgique, vous êtes aussi politologue. Quelle lecture vous faites de toutes ces candidatures à l'élection présidentielle du 20 décembre 2023?
Merci beaucoup pour la question, mais avant toute chose, je me dois de présenter mes salutations à mes deux co-débatteurs du jour, qui sont tous les deux des politologues. Merci alors pour cette question. Et alors, donc il faut bien dire par rapport à votre question, c'est que nous sommes dans la tradition congolaise, hein, donc il n'y a pas vraiment de nouveauté. Il y a 24 candidats, donc il y a toujours eu autant de candidats, sauf bien sûr en 2011 qui était un contexte différent. Et donc on a 24, en 2006 on en avait 33. Et en 2000, donc 20, alors 2000, 2018, on en avait aussi 21. Donc on est véritablement dans la tradition de pouvoir avoir une multitude donc, de candidatures. Ça, ce n'est pas véritablement nouveau. Mais par ailleurs, on peut souligner le fait que 2006, il y avait quand même eu plus de femmes qui étaient candidates par rapport donc à ces élections ici. On n'en a qu'une seule. Donc on a une espèce de régression au niveau des candidatures féminines qui s'explique par les raisons que mon collègue Christian l'a dit tout à l'heure, les raisons qui sont évidentes, les partis politiques, moyens financiers, etc. Et aussi la tradition masculine au niveau de la RDC. Alors, mais ce qu'il y a à souligner, c'est qu'on voit par rapport à la moyenne d'âge des candidats, c'est qu'il n'y a pas vraiment rajeunissement au niveau donc des candidatures. Donc on a une moyenne d'âge de 56 ans. 56 ans, c'est véritablement, on peut dire, ce n'est plus vraiment une classe jeune qui va postuler. Donc je prends une moyenne d'âge entre tous les candidats, donc du plus jeune au plus vieux, en passant par tous les restes de candidats. Donc la moyenne est de 56 ans, et donc 56 ans, c'est un peu âgé par rapport à la démographie donc de la RDC. Alors ce qu'il faut souligner, qu'en fait c'est l'incohérence, et même l'incohérence de ce que le calendrier et même la publication de ces résultats, non, de ces élections, de ces candidats, sont en train donc de nous démontrer, c'est qu'en analysant effectivement ça, nous sommes aujourd'hui, donc on est le 9 octobre, on publie la liste qui n'est pas encore provisoire. Il faut bien insister, cette liste n'est pas provisoire. La liste provisoire sera publiée par la CENI aux alentours du 18 octobre. Et lorsque la liste provisoire est promulguée, donc il faut attendre le contentieux électoral qui va se prononcer depuis novembre. Et donc on aura la liste définitive. D'après le communiqué de la CENI, elle sera publiée donc le 18 novembre 2023, donc la veille de la campagne électorale. Donc quand je compare un peu par rapport à d'autres scrutins, on se rend bien compte que dans le contexte 2006, 2011, 2018, les listes définitives étaient toujours publiées, plus ou moins, je fais une moyenne, 2 mois et demi avant les échéances. Je vous laisse imaginer ici, madame, et puis après les auditeurs aussi, lorsqu'on publie la liste définitive des candidats présidents le 18 novembre, la veille début de la campagne électorale, comment voulez-vous que les gens puissent faire campagne électorale? Comment voulez-vous que les gens commencent à faire campagne électorale tout en sachant pas s'ils seront retenus sur la liste de manière définitive ou pas? Alors, si un candidat aujourd'hui est sur la liste et qui va commencer à faire commande des t-shirts, tout ce que nous connaissons, que nous savons toujours ce qui se passe par rapport à la campagne électorale, et qu'on arrive à la veille de le début de la campagne, le candidat est déclaré donc non recevable ou bien retenu sur la liste. Et quelle sera sa réaction? Et ça veut vraiment dire que nous sommes dans une espèce d'inégalité, inégalité entre les différents candidats. Ceux qui sont à la manœuvre, ceux qui sont au pouvoir pourront sans ambiguïté utiliser les moyens de l'État pour pouvoir faire campagne, tandis que les autres ne pourront pas faire campagne tant qu'ils n'auront pas la liste définitive. Et donc là, c'est véritablement une espèce d'inégalité qui est entre les candidats, qui aura des répercussions même sur la dynamique que l'opposition pourrait lancer, c'est-à-dire essayer de pouvoir arriver à avoir un candidat commun. Alors, on peut avoir un candidat commun de l'opposition que si on connaît la liste définitive des élections. Alors, comment connaître la liste définitive des candidats si on n'arrive pas à avoir cette liste définitive? Donc, il faut qu'il y ait une liste définitive de candidats pour que on puisse arriver à avoir des discussions entre les gens et savoir finalement qui sera candidat ou pas, et de ce moment-là se concerter et avoir un seul candidat de l'opposition, si c'était ça l'option que l'opposition pourrait mener. Quoi.
Est-ce que ça veut dire que la CENI devra revoir ses dates pour permettre aux candidats de se préparer?
Non seulement revoir ces dates, parce que de vous à moi, madame, je prends même les électeurs, les auditeurs à témoin, que les choses ne sont pas claires, ne sont pas équitables. Comment voulez-vous qu'on publie la liste des candidats définitifs la veille des élections, la veille du début de la campagne électorale? Comment un candidat sérieux peut déjà commencer à se préparer par rapport aux élections, tout en sachant pas s'il va être retenu ou ne sera pas retenu, puisque nous savons très bien qu'il y aura un contentieux électoral qui sera très dur et qui sera virulent, violent peut-être, et c'est biaisé, puisque celui qui est au pouvoir aujourd'hui, lui, il peut être rassuré qu'il sera retenu, puisqu'il est le candidat sortant. Il va user des moyens de l'État, ce que les autres ne pourront pas arriver à avoir, et donc nous aurons une inégalité et une discrimination entre les différents candidats. Et cela mettra à mal la stratégie de l'opposition, qui voudrait se mettre ensemble pour discuter. Comment voulez-vous discuter entre candidats de l'opposition sans savoir qui sera retenu comme candidat? Et lorsqu'il va rester un mois pendant la campagne, vous vous en doutez que ça ne sera pas possible pour l'opposition de pouvoir se mobiliser correctement et de pouvoir faire une campagne correcte. Donc, on peut dire sans ambiguïté, si, j'insiste beaucoup, si ces élections ont lieu, puisqu'il y a des signaux quand même qui nous renvoient à la CENI, veulent nous montrer qu'il y a quand même des doutes que la tenue des élections ne soit pas respectée, du fait que nous sommes déjà en octobre et que le matériel dit sensible n'est toujours pas arrivé à Kinshasa et n'est toujours pas déployé dans le reste de la RDC. Et il reste pratiquement deux mois et deux semaines, donc je vois mal comment dans les 2 mois et 2 semaines, la CENI pourra arriver à combler le gap de temps qu'il faut pour arriver à être à temps en décembre 2020.
Merci, professeur Bob Kabamba. Christian Moleka, par rapport à la tenue même des élections, on a suivi Itiel Batumi qui croit vraiment que le 20 décembre, on aura élection. Le prof dit qu'il y a des signaux quand même qui font douter de la tenue de ces élections à la date du 20 décembre.
Oui, il y a des raisons de s'inquiéter parce que, rappelez-vous, lorsque le président Kadima a présenté sa feuille de route, il avait évoqué des éléments, des leviers qui peuvent réqualifier le processus. Il a cité les contraintes légales, les contraintes financières et les contraintes sécuritaires. À quelques mois des élections présidentielles, on voit une CENI qui fait preuve de contraintes financières. Le président de la CENI a parlé des emprunts auprès des banques pour financer le processus. On voit que son sécuritaire est assez volatile avec la reprise possible des combats autour de la ville de Goma ou dans le Nord Kivu. Et donc il y a encore ces leviers qui peuvent nous conduire à douter du processus, ajouter à cela les éléments logistiques tels que déjà évoqués par le professeur Bob. Je peux ajouter les éléments logistiques en termes de capacité de déploiement. Vous savez, la MONUSCO qui a longtemps accompagné les processus ne couvre plus que quelques régions, donc elle n'a plus les capacités d'accompagner un processus sur l'ensemble de la République. Et donc si le gouvernement ne prend pas en charge cette logistique aérienne qui doit permettre de déployer les équipements, on aura des difficultés à avoir un processus logistique qui accompagne véritablement le processus. Donc il y a des contraintes qui se manifestent de plus en plus et qui peuvent justifier de ce doute sur la tenue régulière du scrutin au mois de décembre.
Alors vous allez rester avec nous le temps d'ouvrir notre standard pour prendre ces auditeurs qui sont nombreux à appeler, qui veulent participer aussi à cette émission. On va se rendre à Bukavu dans la province du Sud Kivu pour écouter cet auditeur.
Je suis Madame Jules, je vous appelle depuis la ville de Bukavu dans la province du Sud Kivu. Il est intéressant de noter qu'il y a une diversité de candidats à l'élection présidentielle de décembre 2023, avec un total de 24 dossiers sélectionnés. Cependant, il est préoccupant de constater qu'une seule femme figure sur la liste des candidats. Cela soulève des questions sur la représentation équitable des genres dans la politique nationale. La variété des candidats suggère un désir de changement et une volonté de rompre avec le système de prédation qui, selon eux, gangrène le pays. La présence d'un candidat âgé de 77 ans et d'un candidat âgé seulement de 35 ans montre également une certaine diversité générationnelle parmi les candidats. Il serait intéressant de suivre de près la campagne électorale et le débat entre les différents candidats pour mieux comprendre leurs programmes et leurs propositions concrètes.
Réaction.
Bon, je crois que c'est une contribution au débat. Je pourrais simplement ajouter que cette question de la participation de la femme, elle est profonde. Hein. Vous voyez, par exemple, la loi électorale a mis une innovation en supprimant la caution pour la législative, mais si vous voyez les statistiques, on est toujours à moins de 20% des femmes qui ont participé. Ça veut dire, au-delà de la caution, il faut aller plus loin en termes l'éducation civique, en termes de participation. Il faut que les femmes adhèrent aux partis politiques, il faut qu'elles déposent plus d'ambition. Et ça dépasse uniquement les dispositifs légaux. Il faut vraiment un travail de fond au niveau de la société et peut-être casser quelques codes, parce que nous avons l'habitude dans nos plaisanteurs culturels de dire que bon, ça tourne à Kambokaté, et ainsi de suite. Il faut casser des codes pour mettre à délibérer le potentiel de l'exercice politique de la femme. Concernant la diversité générationnelle, bon, on peut avoir ce sentiment d'une diversité générationnelle essentiellement en termes d'âge, mais est-ce qu'en termes de vision politique, on a une rupture? Ou est-ce qu'on a des acteurs qui sont certes d'âge différent, mais qui ont une même façon de voir la politique? Est-ce qu'on a une rupture dans la façon de faire la politique, une rupture dans les discours? Malheureusement, le débat a commencé déjà, il ne tourne pas autour des programmes, il tourne autour des invectives, des attaques. Et donc, on va revenir dans les travers de notre politique, à savoir absence de discours, absence de programme, absence de bons défauts, essentiellement invectives, attaques personnelles. Et là, nous n'aurons pas l'opportunité de juger du contenu et de l'offre que chaque candidat apporte. Nous, au niveau de la DIPOL, on a longuement milité, on en a d'ailleurs parlé pour un débat présidentiel qui nous permettrait de juger de l'offre des candidats. Sinon, face à cette dispersion avec 24 candidats, avec les invectives telles qu'on l'a commencé, on n'aura pas le temps ni la possibilité de juger des contenus et donc de voir cette grande diversité que peut offrir les candidatures telles qu'on l'a aujourd'hui.
Etiel Batoumike, on va prendre aussi pour vous cet autre auditeur qui nous appelle depuis Kolwezi dans la province du Lualaba.
Adonis Oswald Kamingwa, depuis Kolwezi, province du Lualaba. Pour l'élection présidentielle prochaine, je salue la présence de la jeunesse qui s'est jetée de plein pied dans ce challenge et je regrette que la représentation de la femme se soit résorbée malgré la parité validée par les lois du pays. Nous avons constaté dans les parvis du bâtiment de la CENI que les candidats, après dépôt de leur dossier, prononcent précocement, avant le go officiel de la campagne électorale, des concepts et des propagandes qui frisent à des coups bas prématurés pour s'accuser soit d'incompétence, soit d'étrangers ou des pilleurs de la nation et s'attirer potentiellement l'approbation du peuple. Loin d'être une guerre entre ennemis à abattre pour survivre, l'élection présidentielle doit être considérée comme un match amical entre frères d'une même nation pour le bien de tous. Fair play oblige.
Réaction. On a l'impression que la campagne électorale a déjà commencé avant même le go de la CENI.
Et il n'a pas commencé avec le dépôt des candidatures, il a commencé avec l'enrôlement. Et c'est la première fois qu'on voit de telles scènes où les gens se mobilisent un peu comme si la campagne avait été déjà lancée. Donc l'auditeur a raison de fustiger cela puisque c'est contre la loi. Et je crois que la CENI et le Conseil supérieur de l'audiovisuel et de la communication devraient s'impliquer davantage pour que les médias ne soient pas en train de diffuser déjà des messages de pré-campagne ou qui sont en réalité des campagnes. On a vu d'ailleurs des bâtiments publics avoir des effigies lors de ces dépôts de candidatures. Ça, c'est vraiment condamnable. Il faudrait que les tirs soient rapidement rectifiés pour que l'on ne verse pas dans la violence électorale. Je voudrais quand même aussi placer un mot par rapport à ce que le prof Bob Kabamba a dit sur la question de la publication de la liste définitive. Comme je le disais en introduction, la CENI a gagné en termes de temps parce qu'elle n'a pas prolongé. Elle a ramené son calendrier, donc la date de la publication provisoire qui était du 25 octobre dans le calendrier, elle a ramené ça entre le 18 et le 19 octobre, ce qui lui permet de gagner 6 jours. Elle aurait fait œuvre utile en tout cas en ramenant également la question de la publication de la liste définitive un peu tôt, avec obligation alors pour la Cour constitutionnelle de faire son travail avec diligence pour ne pas occasionner les retards. Puisque l'autre problème de ce processus, depuis 2018, on voit que les cours et tribunaux traînent les pas pour prendre les décisions dans les délits qui sont prévus par la loi. Ça a été le cas lors des contentieux électoraux de 2019, où les députés ont dit attendre plus de 3 mois alors que la loi donne que 2 mois à la Cour constitutionnelle pour publier les résultats définitifs. Et donc la Cour constitutionnelle devrait faire tout pour que les décisions soient rendues dans les meilleurs délais. Puisqu'autrement, on voit dans les communiqués de la CENI dit aux candidats qui seront retenus provisoirement d'imprimer déjà, de considérer que les numéros qui leur sont attribués provisoirement sont les numéros définitifs. Là aussi, on voit que la Cour, la CENI, semble lier les travaux de la Cour constitutionnelle. Si elle dit que mes numéros provisoires, considérez-les comme définitifs.
Et que vous n'êtes pas retenu sur la liste définitive.
Donc, il y a une contradiction. Ouais. La CENI n'a pas à dire aux candidats de considérer les numéros provisoires comme étant définitifs. Parce qu'il n'appartient qu'à la Cour constitutionnelle de décider qui sont candidats de manière définitive. Et donc là aussi, la CENI a violé la loi. Et on voit que la CENI continue malheureusement à violer la loi électorale comme elle vient de le faire. Pour l'affichage.
Ou bien elle sait déjà qui sera retenu ou pas.
Ça aussi, c'est très problématique dans tous les cas. Et donc, la CENI ne peut pas sonder les reins et les cœurs de la Cour constitutionnelle pour savoir qui elle va maintenir comme candidat. C'est très problématique. La CENI devra continuer à faire son travail dans le respect de la loi. Je le disais ici, la CENI vient de publier un communiqué où elle demande de consulter plutôt les listes provisoires des électeurs plutôt que de les afficher comme la loi le lui demande. Et donc, il faut que la CENI continue à faire son travail, mais tout en se conformant à la loi. Autrement, c'est un processus qui va aller d'irrégularité en irrégularité et ça ne prépare pas l'opinion à accepter le travail qui est en train d'être fait, et qui est bien qu'il soit à saluer, mais qui se passe parfois dans le non-respect des règles établies.
Professeur Botkebamba, on va prendre aussi pour vous ce dernier auditeur qui nous appelle depuis Kisangani.
Albert Polembela Bokomba depuis Kisangani dans la province de la Tchopo. Je salue l'opération réalisée par la CENI de l'enrôlement jusqu'à la réception des candidatures à la présidence. Au départ, la majorité des Congolais doutaient de l'actuel bureau de la CENI. Mais aujourd'hui, nous remarquons la volonté manifeste d'organiser les élections dans les délais constitutionnels. Il est bon d'avoir plusieurs candidats à la présidence, mais je déplore que l'opposition n'est toujours pas en mesure d'aligner un ou deux candidats afin de lutter contre l'actuel locataire de la présidence pour crier au tricage des élections. Les femmes ont fait preuve qu'elles ne sont pas prêtes de briguer les postes électifs, car il est inadmissible de voir que 4,16% des candidatures féminines, pendant qu'elles réclament leur représentativité dans les institutions jour et nuit. Le train des élections est démarré. Participons dans la tranquillité pour que cela ne puisse pas diviser les Congolais. Que les élections favorisent le décollage de la République. Bonne chance aux futurs gagnants.
Professeur.
Beaucoup de choses de la part de l'auditeur. Donc, la question d'abord par rapport à l'opposition, je crois que j'y ai déjà répondu. Il est difficile pour l'opposition d'arriver à se mettre d'accord dans une stratégie tant qu'on ne sait pas qui est candidat, qui est retenu comme candidat et qui n'est pas retenu comme candidat. C'est un élément important dans toute la dynamique électorale.
Est-ce que l'opposition, professeur, par rapport à l'opposition, mais est-ce qu'elle ne peut pas se mettre d'accord avant même la publication de la liste définitive? Est-ce que c'est possible? C'est faisable.
Je peux juste vous donner des éléments qui vous vont aider à pouvoir comprendre. C'est-à-dire que si l'opposition se met d'accord avec un seul candidat aujourd'hui, ce candidat-là peut être éliminé, et si ce candidat est éliminé, l'opposition sera éliminée et éradiquée, ne pourra pas participer à ces élections. Il faut bien se rendre compte du contexte politique dans lequel nous sommes. Nous ne sommes pas dans un contexte où il y a une transparence, où il y a un processus électoral qui est transparent. On est dans l'opacité. Il n'y a pas de fichier électoral qui a été diffusé. Il n'y a pas des éléments qui sont diffusés. À plusieurs reprises, la CENI n'arrête pas de violer les lois qui régissent tous les processus électoraux. À titre d'exemple, madame, bien comprendre, la CENI décide de pouvoir, au lieu de publier la liste des électeurs, elle décide que les gens doivent consulter la liste des électeurs auprès d'un agent qui sera accrédité. C'est-à-dire aussi que l'on ouvre le contentieux des électeurs alors que nous sommes déjà au niveau de dépôt des candidatures. Par exemple, je vous donne un exemple. Si moi, par exemple, je trouve que Moussa Fallaï Georges, qui est candidat président de la République, est retenu, et je peux contester qu'il n'est pas électeur, ça veut dire qu'il n'est pas sur la liste des électeurs, et s'il n'est pas sur la liste des électeurs, que la justice me donne raison qu'il n'est pas sur la liste des électeurs, donc il ne peut pas être candidat président de la République. Donc en mettant le contentieux des électeurs après le dépôt des candidatures, madame, on est dans un imbroglio juridico, je ne sais pas dans quel système on est en train d'aller. Malheureusement, c'est ça, c'est qu'on est en train de nous proposer. Et en même temps, en parlant de tranquillité, comme l'auditeur le dit, je ne pense pas que ça va être une tranquillité. Pour la bonne et simple raison, nous avons 24 000 candidats aux élections législatives. On a 24 candidats, etc. Donc nous allons avoir une campagne électorale, une dynamique communautaire, qui va être une dynamique communautaire violente, explosive, et qui va amener à ce que ça ne soit pas une campagne paisible, tranquille, où on va aller aux élections tranquillement. Malheureusement, ça ne sera pas le cas. Par rapport au calendrier, là aussi, j'ai des doutes très forts par rapport au collègue, ce qu'il a donné comme élément. Je vais encore rajouter d'autres éléments. Au-delà même de la dynamique sécuritaire, finance, etc., il ne suffit pas d'avoir la volonté de faire les élections, mais il faut aussi avoir les moyens de pouvoir le faire. Or, dans le contexte actuel, la CENI n'a pas le moyen, de mon point de vue, d'arriver à respecter les processus, les calendriers, et aussi à ce que ces processus soient transparents et que ça se passe dans toute l'égalité. Une question de transparence, le financement de la CENI. Qui connaît le financement de la CENI? Qui connaît le plan de décaissement du gouvernement par rapport au financement des élections? Qui connaît le système sécuritaire qui est mis en place par rapport au processus électoral? Toutes ces questions-là se font dans une opacité qu'on ne se rend même pas compte. Peut-être aussi un autre exemple, tout le système des marchés publics de la CENI se passe en toute opacité, ça veut dire que ça se passe de gré à gré. Quand on dit de gré à gré, dans le vocabulaire juridique de gré à gré, ça veut dire que nous sommes dans une structure de corruption qui ne dit pas son nom, et puisque les Américains déjà en 2018 avaient sanctionné l'ancienne équipe parce qu'ils avaient passé beaucoup de marchés de gré à gré, et que cette fois-ci, tous les marchés de la CENI sont passés de gré à gré, et donc, de manière très claire, si je fais le parallèle, donc nous serons dans un système de corruption généralisé par rapport à ce processus. Si ce processus a lieu, de mon point de vue, je ne pourrais pas attendre à ce qu'on ait des résultats fiables, puisqu'il n'y a pas un fichier fiable, qu'on ait des résultats fiables et transparents, puisque tout le processus n'est pas transparent, et qu'on n'ait pas des résultats qui vont pouvoir être opposables du fait que nous sommes dans un processus opaque.
Christian Moleka, processus opaque, selon le professeur Bob Kebamba, la CENI va d'irrégularité en irrégularité. Cela ne va pas favoriser des élections ou d'une campagne électorale paisible ou des élections paisibles. Qu'est-ce que vous en pensez? Qu'est-ce que la CENI devrait faire? Est-ce qu'il n'est pas tard?
Je crois que nous avons déjà, depuis le début, accumulé les éléments de méfiance. Depuis la loi électorale, la mise en place du bureau, l'enrôlement, l'audit du fichier. Et aujourd'hui, nous sommes en train de parler de la date pour la publication. Nous avons cumulé tout le bureau, tout le processus, des éléments, des étapes critiques de méfiance. Et donc, il est tout à fait logique, en prenant le chemin qu'on a pris, qu'on aboutisse à des élections chahutées. Et moi, ça ne m'étonnerait pas, parce que les conditions sont presque réunies en termes d'indicateurs. Vous avez une opposition qui boude les processus, qui fait preuve de beaucoup de méfiance, une partie qui est en résistance. Vous suivez les discours de tous les acteurs, y compris Moukouké qui vient d'arriver, qui parle d'un cas de détournement du vote des Congolais, une révolution démocratique. Vous avez les éléments de langage qui nous préparent à une contestation. Ajoutez à cela la violence verbale qui vient de s'ouvrir de tous les acteurs, nous avons tous les ingrédients pour aller vers un processus explosif. Si tant est que les correctifs ne sont pas apportés, maintenant à ce stade, quels correctifs on peut encore apporter? Peut-on encore aller vers plus d'inclusivité? On ne sait plus revoir le fichier. On ne sait plus travailler à l'inclusion des candidats exclus. On est face à un processus, à moins que les acteurs politiques se décident de mettre en arrêt le processus et d'aller vers un dialogue imaginaire qui nous entraînerait vers une transition. Sauf arrêt du processus, à ce stade, nous sommes devant un fait accompli. Il faut aller vers le bout. Et le bout, tout le monde le sait, et va nous amener vers un mur.
Itiel Batoumike.
Je voudrais d'abord dire que la CENI n'a pas fait tous ces marchés de gré à gré. Les marchés d'enrôlement a suivi la procédure d'appel d'offres. Et les marchés de gré à gré qui se passent à la CENI, c'est parfois parce que le bureau de la CENI a été mis en place avec beaucoup de retard. Et pour rattraper ce retard face aux exigences de respect des délais d'organisation des élections, la CENI est parfois obligée de recourir au marché de gré à gré, qui est d'ailleurs aussi prévu par la loi. Donc sur ce point-là, il n'y a pas de problème, je pense, mais il s'est fait que la CENI ne communique pas clairement c'est quoi le budget du processus électoral et le plan de décaissement. Ça reste un secret, et ça, le prof a raison de dire qu'il n'y a pas de transparence dans ce processus au niveau des finances. Mais dans les questions des opérations électorales, là aussi, il n'y a pas de transparence. Et la CENI, je pense, en récusant l'OIF et en recrutant ses propres auditeurs pour les fichiers électoraux, et il a raté une meilleure occasion qui lui était offerte par la CENCO ECC de faire l'audit citoyen de son fichier électoral. Il est encore de rater la phase de l'affichage des listes provisoires des électeurs. C'est une phase qui pourrait permettre à ce que les gens puissent voir clairement par rapport au fichier électoral. Alors, je voudrais dire aussi que par rapport à la transparence, les gens ont accepté d'aller dans ce processus électoral, sachant tous les griefs qu'ils faisaient par le passé à la manière dont le processus est conduit. Ils doivent accepter aussi qu'ils doivent mettre en place des mécanismes pour surveiller. Ne pas les faire, il ne faudrait pas qu'ils soient surpris à la fin que malgré ces irrégularités, les résultats peut-être soient crédibles. Parce qu'en 2011, les missions d'observation électorale nous ont dit ici que quelles que soient les irrégularités, celles-ci n'avaient pas d'impact sur l'ordre d'arrivée des candidats. Et donc, on peut avoir toutes ces irrégularités, et si on ne suit pas très bien la manière dont les résultats seront proclamés, compilés, dépouillés, compilés et proclamés, on risque encore de revivre la situation de 2011 où les gens vont crier alors qu'ils n'ont pas de preuves. Et donc l'opposition doit se réunir, comme je l'ai dit, s'organiser pour faire une surveillance électorale, puisqu'on sait déjà qu'il y a beaucoup d'irrégularités, mais il faut alors voir comment est-ce qu'on surveille la dernière étape qui est celle.
Et cette résultats. Opposition devrait faire quoi vraiment pour surveiller ces opérations jusqu'à la fin?
Mais ce qu'il faut faire, c'est former les témoins. Le président de la République, lorsqu'il a déposé sa candidature, il a dit, on est en train de dire que les gens vont rester au bureau de vote pour voir comment le dépouillement va se faire. Nous aussi, on va rester. Et donc, tous les camps politiques, opposition, majorité, doivent former les témoins, les déployer partout et surveiller convenablement les opérations électorales et surtout avoir des preuves à présenter en cas de contestation auprès des juridictions compétentes. Autrement, on sera en train de dire qu'on a volé sans avoir la preuve.
Alors, au niveau où nous en sommes aujourd'hui, Itel Batumike, vous estimez qu'il n'est plus possible d'arrêter le train. Il faut aller jusqu'au bout.
On est vraiment en train d'aller jusqu'au bout. Moi, je crois que les élections auront lieu le 20 décembre. Et s'il y a des difficultés d'ordre logistique, on pourrait peut-être avoir un léger glissement d'ordre technique qui ne pourrait pas dépasser 2 semaines ou 3 semaines, je pense. Et donc, il faut croire qu'il y a les élections et se préparer. Parce que je crois que le piège dans lequel l'opposition a été plongée, c'est de croire qu'il n'y aura pas les élections dans les délais. Et c'est comme ça que beaucoup de gens ne se sont pas préparés à temps.
Il y a eu ce doute-là qui a vraiment plané.
Justement, et ça a été contre-productif du côté de l'opposition. Je pense que peut-être que c'était aussi une stratégie pour endormir les autres et puis avancer en même temps.
Professeur Bob Kabamba, nous sommes à la fin de l'émission. Je rappelle que vous êtes professeur à l'Université de Liège en Belgique et politologue, professeur. Il y aura élection. Vous continuez à douter sur la tenue de ces élections. Il nous reste 2 mois à peu près pour l'organisation du scrutin. La CENI est décidée à organiser ces élections coûte que coûte. Le chef de l'État veut ces élections au mois de décembre. On voit aussi l'opposition qui se prépare par rapport à ces élections. On a relevé un fait ici par Itiel Batumike, c'est le taux de participation de la population. Pensez-vous que les Congolais sont motivés, sont prêts à affronter, à aller à ces élections?
Par rapport au taux de participation, il y a un élément fondamental qu'on n'a pas encore mis en exergue. C'est la qualité des cartes d'électeurs. Nous savons très bien qu'il y a une bonne partie des cartes d'électeurs qui et les données se sont effacées. Alors, comme les données se sont effacées, quelqu'un qui n'a pas une carte d'électeur dont les données se sont effacées, qu'est-ce qu'il a encore à aller chercher à voter, alors qu'en sachant très bien qu'on ne va pas lui permettre de pouvoir aller voter? La CENI a promis de pouvoir faire des duplicata. On se rend bien compte que ce n'est pas des duplicata, mais c'est des nouvelles cartes d'identité, des nouvelles cartes d'électeurs qui sont promises. Et donc, de manière très clair, sans ambiguïté, tous ces processus, c'est un processus, de mon point de vue, qui va amener le chaos, et le chaos va amener la guerre civile. La guerre civile va amener une certaine guerre communautaire, et malheureusement, ces élections ne vont pas rassurer n'importe qui, ni l'opposition, ni même les gens de l'Union sacrée, ni même la communauté internationale, ni même les pays de la région ne vont pas pouvoir accepter à ce que l'on ait une espèce de chaos généralisé et qui va replonger le Congo dans les années 96-97 et qui va devenir, le Congo va devenir un danger pour la région. Et je pense que la région est en train de prendre ses dispositions pour que ce scénario n'arrive pas. La piste qu'il y a, de manière claire, sans ambiguïté aussi, c'est simple. Le processus est pourri, le processus est corrompu. Il est important de pouvoir mettre un halt, reviser, remettre les tableaux en place pour qu'on ait un processus qui soit accepté par tout le monde. Et une fois qu'on a un processus qui est accepté par tout le monde, on réduit le niveau de violence, on réduit les capacités de revendication, et à ce moment-là, on peut aller dans une dynamique apaisée. Mais si ce n'est pas le cas, nous aurons d'ici quelques mois, quelques semaines, une autre émission où nous allons discuter non plus du processus électoral, mais nous discuterons des violences communautaires qui seront en train de se passer en RDC.
Merci, professeur Bob Kebamba. Christian Moleka, je vous vois sourire pendant que le professeur faisait sa conclusion. Vous n'êtes pas d'accord avec lui?
C'est un tableau apocalyptique, mais un tableau qui peut se réaliser si nous ne prenons pas conscience que les élections peuvent être en Afrique un facteur accélérateur de la stabilité. Et malheureusement, depuis 2006, nous avons l'habitude d'avoir, après les élections, un moment d'instabilité. Et donc la crainte, c'est que nous ayons, après 2023, encore cette période d'instabilité où on perd une année autour des questions de stabilité, de vérité des urnes, et plutôt que de parler de développement et gouvernance. On aurait pu, si on avait saisi les occasions qui se sont présentées avant, notamment au niveau de la CENI, à régler ces problèmes. Malheureusement, on les a ratés, on est devant un fait accompli, et les faits accomplis, c'est que les signes ne présagent pas des très beaux jours.
Etienne Batoumike, votre conclusion.
Je crois qu'il faut respecter les règles qui organisent les élections en République démocratique du Congo. Il faut suivre à la lettre tout ce qui est prévu dans la loi électorale et les autres lois et les mesures d'application de ces lois-là. Parce que on ne peut pas continuer à refaire les mêmes choses et espérer que les choses changent dans ce pays. Je crois qu'il est temps que ces élections soient une occasion où le peuple va fêter après les élections au lieu de s'entretuer parce que les élections n'auront pas été les plus crédibles comme on pouvait le souhaiter. Et donc la CENI devra être beaucoup plus attentive au respect des lois et être vraiment ouverte aux critiques qui lui sont adressées afin de prendre en compte les désidératants des uns et des autres.
Merci Thiel Batoumike. Dialogue entre Congolais, c'est fini pour ce soir. Merci à toute l'équipe qui m'a accompagné, Guy Maté, Donna Madimba, Alain Goy, Jonathan Fonani, Clément Chimanga, Hervé Voka et Dieudonné Nyangasa. Présentation et coordination Kéline Couté. Bonne suite de programme sur la fréquence de la paix.